Bonjour Thomas Galisseux.
Le président ukrainien qui continue d'implorer les Européens de l'aide militaire, des bras. Est-ce que la solidarité s'effrite? Est-ce qu'on est à la hauteur de l'enjeu?
Mais je pense que tout d'abord, il faut. On vient d'adopter, on va l'adopter officiellement le 24 février, un 13e paquet de sanctions contre la Russie, contre des entités russes, contre des oligarques. Si l'Ukraine est toujours debout en train de résister, c'est aussi parce qu'elle a l'aide des 27 pays membres de l'Union européenne, de l'OTAN, mais aussi des États-Unis. Et donc, il faut regarder aussi tout ce qui est fait. Et nous continuerons bien sûr à le faire. Parce que qu'est-ce qui se joue en réalité? C'est un vrai bras de fer entre un régime sanguinaire, autocratique, un dictateur qui ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. Et il l'a dit ouvertement. D'autres pays sont sur sa map monde, donc la Moldavie. Il y a aussi cette guerre hybride qu'il mène depuis des années. Nous savons aujourd'hui que les élections, par exemple, américaines de 2016 ont été influencées par Poutine, qu'il a influencé les toutes dernières élections en Slovaquie, qu'il diffuse des fake news pour déstabiliser nos démocraties. Poutine n'aime pas l'Europe, il n'aime pas les valeurs que dont nous nous sommes battus pendant des années, c'est-à-dire la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté de penser. Les LGBTIQ+ n'ont aucun droit. Vous ne seriez pas là, Thomas Gadisseux, en train de m'interviewer, si Poutine étendait encore son pouvoir.
Ça veut dire, à la Bible, que les chancelleries européennes sont clairement préparées à ce que éventuellement l'Ukraine bascule et qu'un autre pays tombe dans l'escarcelle russe. On est en train de se préparer à ce scénario-là.
Je pense que ce à quoi nous nous préparons et depuis longtemps, c'est à développer une industrie de la défense commune. Nous vivons une époque très intéressante au niveau géopolitique et en même temps très dangereuse. Vous savez, plus de la moitié des citoyens dans le monde vont aller voter cette année, 2024. Si des dictateurs comme Poutine et ses amis continuent à influencer, ça veut dire déstabiliser finalement toutes les démocraties qui permettent au peuple d'émettre leurs opinions, de choisir leurs dirigeants. Il va y avoir des élections en Russie, est-ce que ça va être des élections? On peut appeler ça des élections? Non. Donc on doit se préparer à défendre notre territoire, bien sûr, mais aussi nos valeurs, nos façons de vivre, notre bien-être et notre prospérité.
Est-ce que les élections américaines compliquent la donne, justement, vers cette route pour éventuellement un début de négociation, de paix?
Je pense que personne n'a intérêt à ce que cette dictature s'étende encore. Personne n'a intérêt à laisser gagner
Poutine,
y compris bien sûr les États-Unis, parce que Poutine finalement piétine la charte des Nations Unies, à savoir le respect de l'intégrité territoriale internationalement reconnue des États membres. Parce que sinon, quel message est-ce qu'on envoie? Que demain, n'importe quelle grande dictature, et je vous laisse deviner lesquelles, pourrait envahir son voisin sans problème? Donc ce serait le règne de l'impunité et la loi du plus fort. Est-ce que c'est ce monde-là qu'on a envie de laisser à nos enfants? Je pense que les Américains non plus n'ont pas envie que ce soit la loi du plus fort qui l'emporte.
Adjelabi, vous avez rencontré cette semaine la veuve d'Alexei Navalny qui était en visite à Bruxelles. Est-ce que sa mort est aussi un tournant dans cette guerre diplomatique avec la Russie?
Mais vous savez, aujourd'hui, vous commémorez les 2 ans, on commémore les 2 ans. Personne, vous l'avez dit, rappelé, ne s'attendait à ce que Poutine envahisse l'Ukraine. Est-ce que quelqu'un s'attendait à ce que Poutine ose tuer celui qui incarne finalement le plus grand, son opposant, le plus célèbre, Navalny?
En tant que ministre des Affaires étrangères, vous assumez le fait que donc, c'est Vladimir Poutine qui a tué...
Je pense qu'il emporte la responsabilité, c'est clair, puisqu'il a enfermé Navalny dans une prison sans moyens, en le laissant décrépir, en laissant sa santé chancelante. Déjà, il a été empoisonné, rappelez-vous. Et puis, Navalny n'est pas le seul. Il y a eu de nombreux... Il y a eu 700 opposants recensés officiellement aujourd'hui en Russie, plus tous ceux qui ont été arrêtés ce week-end parce qu'ils osaient déposer des fleurs et commémorer donc Navalny. Donc Ça veut dire que vraiment la liberté de la presse n'existe pas. Aujourd'hui, en Russie, si on s'oppose à Poutine, on tombe d'une fenêtre, on a un accident de voiture, même si on s'exile, on est poursuivi. Donc c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se
passer. Vous avez utilisé le mot dictateur, dictature plusieurs fois. L'ambassadeur russe a été convoqué par les autorités belges. Ça veut dire qu'il y a une rupture totale, diplomatique, économique avec la Russie ?
Alors, l'art de la diplomatie, c'est justement de maintenir les portes ouvertes. Parce que quand on ferme la porte, il n'y a plus de négociation possible. Et notre objectif, même s'il est urgent de continuer à aider et efficacement l'Ukraine, c'est de continuer à dialoguer. Bien sûr, de permettre aussi aux citoyens russes de se faire entendre, de faire entendre un autre son de cloche. Et c'est pour ça que nous avons d'ailleurs toujours une ambassade sur place, qui est réduite, mais elle est toujours sur place. Et nous espérons que ce conflit se terminera et le plus vite possible à la table des négociations avec l'Ukraine en position de force.
Et c'est aussi pour ça que Bruxelles écoute et accueille d'autres voix comme la veuve d'Alexei Navalny. Qu'est-ce qu'elle vous a demandé, tout simplement? Qu'est-ce qu'elle demande aux Européens?
Ce qu'elle m'a demandé, c'est clairement un soutien. Et je lui ai demandé comment, évidemment, la soutenir. Et elle m'a dit, en permettant justement à des voix comme la sienne de continuer à être entendue, à être médiatisée, à nous faire comprendre que derrière Poutine, il y avait un peuple qui souffre, qui ne peut dire ce qu'il pense, parce qu'aujourd'hui, encore en Russie, si vous parlez de guerre contre l'Ukraine, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement, parce que c'est toujours une opération spéciale, où des Russes par milliers sont envoyés comme chair à canon. Les mères pleurent leurs enfants, mais elles ne peuvent pas le pleurer en public.
Adel Habib, autre guerre qui mobilise aussi les Européens, Gaza, Israël, les Européens qui se sont mobilisés pour à un moment donné arrêter des frappes israéliennes sur la bande de Gaza qui continue. Quel est votre message aux autorités israéliennes? La Belgique a la présidence de l'Union Européenne. Est-ce qu'Israël est en train de dépasser les limites du droit international, de franchir justement les barrières humanitaires?
Alors, sous la présidence belge et grâce à une médiation que j'ai moi-même et par l'intermédiaire aussi de mes services menés pendant de nombreuses heures, lundi, nous sommes parvenus à une déclaration à 26, pas à 27 malheureusement, mais à 26.
La Hongrie
demandant
est écartée.
Que, un, l'opération militaire terrestre ne soit pas menée à Rafah, demandant solennellement aux autorités israéliennes de ne pas mener cette opération, et deux, d'aller vers une pause humanitaire immédiate. Nous avons demandé une pause humanitaire immédiate qui mènera à un cessez-le-feu durable. Ce sont les termes. La Belgique seule, comme d'autres pays au sein de l'Union européenne, va plus loin et demande un cessez-le-feu immédiat. Ce qui se passe à Gaza, c'est l'enfer sur terre, c'est près de 30 000 victimes, de nombreux disparus. Il est temps que ce conflit s'arrête et que, enfin, les deux parties s'asseyent et qu'on relance le processus de paix avec une solution qui doit mener à deux États.
Dans la situation actuelle, ce sont des frappes israéliennes sur Gaza qui provoquent cette situation humanitaire dramatique. Après plus de 5 mois de conflit, les Européens se disent impuissants. Vous dites que c'est la première fois qu'on a réussi à un moment donné à mettre un halte là et à stopper une frappe, une invasion.
Alors, il y a peut-être un sentiment d'impuissance, il y a un système multilatéral qui montre ses limites. Aujourd'hui, je pense qu'on peut parler de faillite, quelque part, de la communauté internationale, avec des vétos qui empêchent d'envoyer des signaux beaucoup plus clairs.
Avec au sein du Conseil de sécurité des Nations.
Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je pense que quand Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, dit qu'on est dans une situation chaotique pire que l'après-guerre 40-45, il pèse ses mots. Et donc, oui, nous sommes dans une situation où nous devons absolument montrer un front uni, où les signaux doivent être clairs, où le fait que non, nous n'appliquons pas de double standard, ce qui est valable pour la vie des Ukrainiens est valable pour la vie des Palestiniens.
Et est aussi valable pour la vie des Congolais.
Et des Israéliens aussi, évidemment. Nous demandons aussi, je dois le dire, bien sûr, la libération des otages israéliens.
Et une situation qui est aussi inquiétante au Congo, manifestation qui se tiendra à Bruxelles pour ramener la situation qui est en train de se dégrader au niveau sécurité, au niveau humanitaire aussi là-bas. Là, quel est le rôle de la Belgique? Les États-Unis pointent par exemple le rôle du Rwanda dans la dégradation de cette situation. Est-ce que c'est une situation qui préoccupe aussi nos autorités?
Alors, depuis que je suis ministre des Affaires étrangères, nous avons porté aussi au haut de l'agenda la situation à l'est de la République démocratique du Congo au sein du Conseil des Affaires étrangères. Nous avons demandé une nouvelle stratégie qui renforce la présence de l'Union européenne et nous avons dénoncé aussi L'ingérence du Rwanda et le soutien avéré par des rapports d'experts des Nations Unies au M23. Et donc ce que nous demandons, c'est que le Rwanda se désengage du territoire congolais, cesse son soutien au groupe militaire, tout comme nous demandons au Congo qu'elle cesse aussi son soutien au groupement militaire.
Allez, Labib, on a parlé des grands dossiers internationaux. Il y a aussi la politique belge et la campagne électorale qui est lancée. Votre nom est régulièrement cité dans la confection des listes électorales du MR pour Bruxelles. Vous aviez été annoncé à la deuxième place sur la liste régionale. Vous pourriez être en tête de liste à la liste fédérale. Vous-même, vous avez des nouvelles sur l'état d'avancement des négociations ?
Je peux vous dire que mes fonctions de ministre des Affaires étrangères me prennent plus que mon temps.
Vous suivez comme nous dans la presse ?
Je suis comme vous dans la presse et je serai prête à me mettre au service des Bruxellois, que ce soit au fédéral, que ce soit à la région, ça n'a aucune importance. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas une place sur une liste, c'est l'engagement envers les citoyens.
Donc il n'y a pas encore eu de décision au sein du MR concernant les listes
Vous me la prendrez.
On vous la prendra. Peut-être. Vous pouvez mettre la première alors.